Bonjour et bienvenue sur la première émission de l'atelier radio tenu par les élèves du lycée Chaptal de Mende. Aujourd'hui, en ce mercredi 14 novembre, nous sommes en direct de l'espace événement où se trouve actuellement la troisième édition du Campus Bien-être. L'émission est en direct et en public à 11h et à 14h. Ce matin, les thèmes abordés seront la santé puis le numérique. À partir de 14h, les thèmes de l'engagement et l'alimentation seront évoqués. Pour le premier thème sur la santé, nous sommes accompagnés de Isabelle Grune, puéricultrice et chef du service prévention santé au département, et Elodie Ridao, infirmière scolaire au lycée Chaptal. Je suis Erine, avec moi Octave et Gabriel. Nous allons animer l'émission en cette belle matinée. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Octave, une première question.
Oui, Erine. Isabelle Grune, vous êtes puéricultrice. Expliquez-nous ce qu'est le service de prévention santé et parlez-nous de ses missions.
Alors, déjà peut-être vous dire ce qu'est une puéricultrice. Donc une puéricultrice est une infirmière qui est spécialisée après les 3 années de formation d'infirmière, avec une année supplémentaire, voire 2 bientôt, qui est spécialisée donc dans le suivi, la santé, la prévention pour tous les jeunes de 0 à 18 ans. Voilà. Donc le service prévention santé dont je suis chef de service, c'est un service qui a pour mission d'accompagner les familles, les enfants, les parents, donc de faire à la fois du soutien à la parentalité, mais aussi de faire de la prévention en santé, du dépistage auprès des enfants. Et aussi, ce service a une mission de soutien aux jeunes dans tout ce qui est autour de la vie affective et sexuelle, c'est-à-dire qu'il y a le centre de planification, qui est en fait un lieu où on peut accueillir tous les jeunes de façon anonyme et gratuite pour les conseiller, les orienter. Ils peuvent rencontrer une sage-femme pour parler de contraception, parler de vie affective et sexuelle, éventuellement poser un implant, faire un bilan, etc. Et donc ce centre de planification, il y en a un sur chaque territoire, dans chaque centre médico-sociaux. Voilà.
Formation de puéricultrice, pourquoi avoir décidé de rentrer au service prévention ?
Alors en fait, quand on est infirmière ou puéricultrice, on peut faire une formation supplémentaire qui est une formation en fait de cadre de santé. La formation de cadre de santé permet soit de faire de la formation, par exemple d'être formatrice à l'école d'infirmières, ce que j'ai été pendant quelques années, soit alors d'être cadre de santé, c'est-à-dire d'animer une équipe, manager une équipe, faire des projets avec une équipe. Et donc c'est ce que j'ai choisi de faire au niveau du département, avec une équipe sur le département de 6 puéricultrices, 2 sages-femmes, une éducatrice de jeunes enfants. Et donc toutes ces professionnelles travaillent avec moi sur des projets sur le département et des projets aussi d'accompagnement des familles tout au long de l'année.
Ok. Elodie Ridao, comment on devient infirmière scolaire ?
Alors, un peu comme puéricultrice, il faut d'abord faire ses 3 années d'études à l'IFSI, donc Institut de formation en soins infirmiers. Donc moi, à mon époque, c'était 3 ans et demi. Je crois que c'est repassé à 3 ans. Et ensuite, un petit peu d'expérience, c'est pas mal. Et ensuite, de passer le concours de l'éducation nationale. Donc c'est un concours qui est académique. Et donc il y a une partie écrite. Et quand on est admissible à l'oral, il y a ensuite un entretien. Et après, c'est le système du concours. Donc les premiers ont les places vacantes dans chaque établissement.
Et pourquoi voulez-vous être infirmière dans le milieu scolaire et pas dans le milieu libéral ou en hôpital ?
Mais moi, dès le début de ma formation, j'ai senti que l'hôpital, c'était pas pour moi. Mais je pense que c'est des questions de personnalité, en fait. Donc voilà, j'avais du mal avec le soin et surtout le soin de la maladie. J'avais plus besoin d'une prise en charge globale de la personne, c'est-à-dire de prendre en compte aussi tous les autres éléments. J'adore travailler avec les enfants, les ados et les jeunes adultes. Donc, infirmière scolaire me paraissait... j'avais fait quelques remplacements, donc je connaissais le principe et les missions de ce métier. Et du coup, j'avais envie d'être titularisée et de pouvoir évoluer dans ma formation et dans ma profession.
Je m'adresse à vous deux. Y a-t-il un profil particulier pour être puéricultrice ou infirmière ? Et quelles sont les qualités requises ?
Je pense que les premières qualités, c'est... les qualités relationnelles. Je ne sais pas si vous avez déjà été hospitalisé, si vous avez déjà été malade dans une chambre d'hôpital. Ben, voir quelqu'un qui rentre avec le sourire, qui est attentif, qui se met un peu à votre place, parce que ben, souffrir, avoir mal, être malade, ce n'est pas simple. Donc, qu'une infirmière soit dans cette première relation avec le patient sur le versant du sourire, de l'accueil, de l'empathie, ben c'est vraiment, je pense, une grande qualité. Donc c'est plutôt une qualité humaine, je pense, qui est primordiale. Et puis après, ben il y a d'autres qualités, parce que au niveau de la technicité, au niveau des soins, ben il faut aussi pouvoir accéder, pas avoir peur de du sang, pas avoir peur de certaines situations complexes, d'urgence, etc. Élodie, tu...
Oui, moi je vois des qualités d'altruisme, de prendre soin de l'autre, avoir plaisir et prendre du soin, prendre le temps, prendre toutes les dimensions de la personne. Je trouve ça très important dans les qualités d'infirmière. Les infirmières sont des personnes techniciennes, certes, mais voilà, les qualités relationnelles sont très très importantes pour ma part, et notamment plus dans l'éducation nationale. Donc, puisqu'on n'a pas beaucoup de soins. Okay. Voilà.
Vous êtes chef du service prévention santé en Lozère. À quel problème de santé êtes-vous confronté?
Alors, en fait, on est surtout dans nos missions prioritaires là pour accompagner les familles, donc faire du soutien aux parents, aux jeunes parents, sur des problématiques qui sont des problématiques, on va dire, du quotidien, c'est-à-dire des difficultés de sommeil d'un enfant, des problématiques sur son alimentation, voilà, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où on accompagne les familles et on essaye de leur donner des pistes pour mieux prendre en charge, mieux comprendre les besoins de leur enfant. Et après, avec les plus jeunes, donc dans le cadre de vie affective et sexuelle, dans le cadre de l'accompagnement qu'on peut mettre en place avec eux, là, on est plus sur des problématiques de connaissances, de recherche de ressources, éventuellement de difficultés à communiquer avec les parents, des problématiques parfois d'addiction aussi, notamment chez les jeunes, avec le tabac, l'alcool, la drogue. C'est des choses qu'on peut aborder avec eux, mais tout ça on le fait conjointement avec d'autres partenaires, puisqu'aujourd'hui sur la Lozère il existe un réseau qui s'appelle le réseau Santé Jeunes 48, où il y a plusieurs partenaires qui participent à ce réseau et qui sont chacun d'eux spécialisés dans des choses plus spécifiques de la santé. Donc il y a par exemple la consultation jeunes consommateurs, il y a par exemple le CIDFF qui est plus celui tourné autour de la prévention des violences, le respect de l'autre, etc. Il y a le planning familial qui lui est très centré sur justement les problématiques aussi sexuelles des jeunes. Donc tous ces organismes-là, toutes ces institutions, toutes ces associations sont regroupées dans ce réseau Santé Jeunes, et ça permet à tous les jeunes de pouvoir aller chercher l'information et chercher de l'aide là où ils ont besoin.
D'accord. Madame Ridao, on sait qu'il y a un manque de médecins à Lozère. Est-ce qu'il y a également un manque d'infirmières scolaires?
Alors, il y a un manque, oui, par rapport aux besoins. Mais ça, c'est une politique nationale, donc je ne vais peut-être pas rentrer dans ce débat-là. Après, je crois qu'au niveau de la Lozère, tous les postes d'infirmières scolaires sont pourvus. Mais clairement, il manque... Au Chaptal, on est plutôt bien lotis, puisque nous sommes deux infirmières. Mais il faut savoir qu'au lycée Pétavin, il n'y a plus qu'une seule infirmière. Et que je pense qu'effectivement, pour ma collègue, ça doit être compliqué. Donc oui, il manque des infirmières scolaires, comme il manque des surveillants. Hein, vous en faites aussi le constat. Comme c'est compliqué aussi de remplacer les enseignants, voilà, donc dans le système scolaire, il y a des manques, des moyens humains qui manquent, effectivement. Et ça va être de pire en pire, je pense.
Si je peux compléter, c'est vrai que par rapport aux médecins, au corps médical, effectivement, on a des zones sur le département qui sont moins bien dotées que d'autres. Et notre travail à nous, service prévention santé, c'est de pouvoir être au moins en première ligne pour pouvoir permettre aux familles d'accéder au moins à un premier réseau de prévention et à des informations, une orientation, éventuellement du dépistage, pour qu'ensuite les infirmières puéricultrices qui sont sur les territoires ou les sages-femmes qui sont sur les territoires puissent orienter les familles vers un médecin, un spécialiste, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des zones encore où on a un manque de médecins, ça c'est sûr.
Et nous n'avons pas de médecins scolaires non plus sur la Lozère.
Et nous manquons de médecins de PMI également.
Avant de continuer, nous avons un micro pour le public. Si vous souhaitez participer, poser des questions aux intervenants, vous pouvez lever la main. En ce mois de novembre, Élodie, il y a des actions pour le mois sans tabac. Dans les établissements, est-ce qu'il y en a beaucoup particulièrement, ou est-ce que les actions marchent ?
Alors, on ne peut pas faire un bilan là, c'est un petit peu trop tôt. Alors donc, au mois d'octobre, on avait bien communiqué sur l'arrêt du tabac, la proposition de pouvoir, pendant un mois, lever le pied sur la consommation. L'idée n'est pas forcément d'arrêter totalement pendant tout le mois. L'idée, c'est de prendre conscience de sa consommation et d'essayer de diminuer, voire d'arrêter un mois, plus, moins, selon ses limites et ses possibilités. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas faire de bilan. Les choses sont en cours, donc au niveau du lycée Chaptal, tu peux aussi en parler, Erine. Donc, il y aura des actions de mise en place, notamment des substituts à l'envie d'aller fumer la cigarette à la récréation. Donc, il y a le vélo smoothie qui va bientôt arriver à la cafétéria. Donc, vous allez pouvoir pédaler et boire de bons jus de fruits. Ensuite, voilà, il y a d'autres actions qui vont être mises en place, des films débats sur le lobbying du tabac, qui peut être intéressant aussi. Et le mois de novembre est un mois très, très riche en éducation à la santé, puisqu'il va y avoir aussi la prévention des violences faites aux femmes au mois de novembre. Et on va attaquer aussi, le 8 novembre, il y avait la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Et donc là aussi, il va y avoir des actions en direction des classes de seconde avec des films et des possibilités de débattre sur les différentes thématiques.
Élodie, c'est pas dépassé le fait de fumer, ça devient has-been, on a l'impression, de nos jours. Est-ce que toi, tu vois une évolution chez les jeunes par rapport à il y a quelques années sur le fait de consommer?
Oui, tout à fait. Je remarque, alors il y a toujours beaucoup de fumeurs, on est d'accord, mais il y a quand même toute une nouvelle mouvance et surtout des adolescents très sportifs qui, voilà, la cigarette, ça va pas avec le sport, et ça, c'est quelque chose de nouveau, je trouve, qui arrive. Après, par contre, je suis un peu plus inquiète sur la consommation de cannabis, puisque l'un remplace aussi un peu l'autre par moment. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ne fument plus de tabac, mais qui vont fumer du cannabis. Donc, si on faisait un bilan total, je suis pas super sûre qu'il y ait une grande différence. Ça en fait toujours beaucoup qui fument. Mais pas la même chose, effectivement.
Voilà, et on rappelle qu'il y a la NPA avec la capsule, justement,
oui,
qu'on peut recevoir.
La consultation jeune consommateur, donc tous les mercredis après-midi, où les élèves peuvent se rendre de façon anonyme et gratuite, sans avoir à en faire part ni aux enseignants, ni à l'infirmière, ni même aux parents. Donc, pour faire au moins un bilan sur sa consommation, parce que c'est ça qui est important. L'idée n'est pas de moraliser les comportements, c'est juste de savoir ce qu'on fait et les faire en conscience. Voilà.
Le service santé met des actions en place aussi au niveau de cette problématique?
Oui, alors on a participé donc au mois sans tabac, et nous avons axé particulièrement notre information et nos actions autour de grossesse et tabac et tabagisme passif, parce qu'on a beaucoup d'enfants, de nourrissons qui ont des bronchiolites à répétition, des infections pulmonaires qui sont souvent liées à l'environnement tabac, au sein de la famille, dans la voiture, dans les appartements. Donc toute cette sensibilisation, on l'a beaucoup travaillée, et on a beaucoup de jeunes femmes qui ont un désir de grossesse ou qui sont enceintes et qui vraiment demandent de l'aide pour arrêter le tabac, parce qu'elles savent que c'est toxique pour leur fœtus et pour l'enfant à venir. Donc oui, on a beaucoup travaillé sur cette thématique.
Il y a une évolution, Lozère, sur ces problématiques de santé. C'est un peu la même question que je posais à Élodie, mais pas seulement sur le tabac. Est-ce qu'on voit une évolution des mœurs?
C'est toujours difficile à dire, parce qu'on n'a pas forcément la possibilité d'avoir un suivi sur du long terme ou des évaluations qui nous permettent de voir comment les choses évoluent. Par contre, on a des statistiques au niveau national, et quand on regarde l'évolution ou la situation de la Lozère par rapport aux statistiques nationales, on voit qu'il n'y a pas tant de différence. Donc on est vraiment sur le département dans les mêmes thématiques et les mêmes problématiques que sur le plan national.
Moi, j'ai vu une évolution sur les alcoolisations, par contre. C'est vrai que ça fait 15 ans que je suis infirmière scolaire, au début de ma carrière. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de prises en charge d'alcoolisation massive les mercredis après-midi. Donc, des internes qui revenaient le soir en état d'ébriété. Et c'est un phénomène que je remarque beaucoup moins depuis quelques années. Voilà.
Donc, au-delà de l'atelier radio aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire dans le campus? Dans le campus bien-être?
Alors nous, pour ce qui concerne le service prévention santé, donc nous avons un stand avec des partenaires avec lesquels on travaille très régulièrement, du réseau Santé Jeunes 48. Donc on a un stand d'information où on diffuse aux jeunes des plaquettes d'information, où on diffuse des préservatifs féminins, masculins, où on donne de l'information et on est ressource pour eux s'ils ont des questions. et également le service prévention santé a un atelier qui s'appelle Câlin Malin. Donc c'est le centre de planification, la sage-femme du centre de planification qui l'anime. Et là, c'est un jeu autour de la vie affective et sexuelle qui permet aux jeunes de voir un petit peu où ils en sont de leurs connaissances et qui permet autour d'un jeu de pouvoir discuter librement et sans tabou de la vie affective et sexuelle des jeunes aujourd'hui.
Élodie, vous allez partir après cette émission ?
Je vais faire un petit tour pour voir les différents stands, mais c'est vrai que j'ai aussi des obligations au niveau du lycée et de l'internat, notamment ce soir. Donc voilà, il va falloir que je retourne ensuite à mon poste.
Bon, ben, merci pour votre intervention. Pour cette deuxième partie sur le thème du numérique, nous accueillerons un gendarme et un policier, enquêteur en cybercriminalité. À tout de suite, après une pause musicale.
Merci.
Cette deuxième partie d'émission sur le numérique, nous sommes toujours en direct et en public pour le campus bien-être. Pendant cette courte pause, Quentin Duros et Mathieu Sabadel, gendarmes et policiers enquêteurs en cybercriminalité, nous ont rejoints. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Gabriel, une question ?
Oui, tout d'abord, présentez-nous votre métier et en quoi il consiste ?
Alors moi je veux bien commencer. Alors je suis enquêteur en technologie numérique à la cellule d'identification criminelle et numérique de Mende. Le métier en lui-même, alors qu'est-ce que c'est ? On a trois grandes missions principales. La première est l'analyse des supports informatiques. Donc aujourd'hui dans le cadre d'une enquête judiciaire, donc il y a énormément de problématiques qui sont liées au numérique et qui existent. Notre travail est d'analyser tous les supports informatiques, d'en trouver les preuves et de les rendre juridiquement exploitables devant une juridiction, dans un tribunal. Ensuite, la deuxième mission pour nous, ça va être tout simplement de gommer toutes les difficultés techniques qui peuvent être rencontrées au cours d'une enquête sur le département, hein, que n'importe quel gendarme peut nous solliciter pour avoir notre avis sur une problématique technique. Et enfin, on a la possibilité de former en fait ce qu'on appelle en gendarmerie des correspondants en technologie numérique, qui vont être des gendarmes affectés dans les unités territoriales, dans les brigades, et qui vont être particulièrement sensibilisés à la cybercriminalité et pour répondre donc aux impératifs du terrain. Voilà, ça c'est un peu le tour d'horizon de notre métier.
Et au sein de la police nationale, en fait, c'est exactement les mêmes missions, le même travail, sauf que en Lozère, on commence déjà à implanter cette formation. Donc aujourd'hui, je suis le seul référent ICC. Alors nous, c'est investigateur cybercriminalité au sein de la police. Donc je suis le seul référent au niveau de la Lozère, et on a exactement les mêmes missions et les mêmes travails avec la gendarmerie.
Pourquoi avoir choisi le domaine spécifique de la cybercriminalité ?
Alors le domaine spécifique de la cybercriminalité, déjà c'est un domaine d'avenir. On dit beaucoup que c'est une espèce de police 2.0 pour utiliser des termes numériques, enfin des termes de nouvelles technologies. Donc une police 2.0, c'est quoi ? La cybercriminalité, c'est quoi ? C'est la criminalité, mais avec un rapport cyber. Donc c'est la criminalité de l'avenir, un peu. Même si ça fait quelques années qu'on commence à s'y intéresser fortement. Donc voilà, après, pour mon choix personnel, juste pour parler de 2 secondes, moi, ça s'est fait à la suite des événements de Charlie. C'est après qu'on m'a proposé un service d'investigation dans le numérique qui n'était pas du tout mon domaine d'origine. Et puis j'ai découvert ça et puis je me suis lancé à fond là-dedans. Voilà.
Moi, pour ma part, je suis issu d'une filière de police judiciaire. Donc j'étais enquêteur généraliste avant, pendant plusieurs années. Et je me suis vraiment rendu compte, avec l'essor d'Internet et tout ça, qu'il y avait des choses vraiment terribles qui se passaient sur Internet, tout par Internet ou en utilisant les moyens numériques. Et il fallait, enfin Internet n'est pas une zone de non-droit, il fallait vraiment des gens pour lutter contre ça de manière très efficace. Mon expérience, elle s'est faite à travers la lutte contre les prédations sexuelles et compagnie. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. J'ai eu envie d'aller plus loin et donc de faire cette formation qui m'a amené là aujourd'hui.
D'accord. Actuellement, quels sont tous les délits auxquels vous êtes confrontés ?
Alors moi je peux vous parler de ce qui existe dans le département en zone gendarmerie. Principalement, donc en grande majorité, on a à peu près 60% des infractions cyber qui relèvent de l'escroquerie. Donc on est sur l'escroquerie sur Internet, sous toutes ses formes. On en parle assez et sur les réseaux sociaux et sur les sites d'arnaque et compagnie. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a eu affaire à un moment ou à un autre à une tentative d'arnaque ou a entendu autour de lui quelqu'un qui avait été victime d'une arnaque sur Internet, que ce soit aux petites annonces, que ce soit l'usurpation d'identité ou tout ça. Donc ça reste quand même une grosse majorité. Ensuite, on retrouve des choses beaucoup plus inquiétantes comme le chantage ou l'usurpation d'identité, les atteintes à la personnalité, tout ça, donc de l'ordre de 15% à peu près sur le département. C'est vraiment des infractions qui ont de grosses répercussions, notamment chez les jeunes. Et ensuite, on retrouve tout un autre panel d'infractions. Donc ça passe bien sûr par le harcèlement, ça passe parfois par l'achat de matières stupéfiantes sur Internet, la falsification de moyens de paiement. Enfin, il existe plein de choses. Mais de grosses parties en Lozère, ça reste de l'escroquerie. Et après, tout ce qui est chantage, atteinte à la personnalité et usurpation d'identité et lutte contre le contenu pédopornographique sur Internet. Voilà.
Juste, je voudrais rajouter par rapport à la question, c'est que au point de vue national, il y a une plateforme d'harmonisation de récupération de signalement qui s'appelle Pharos. Donc le site, je vais le donner parce que c'est important, c'est www.internet-signalement.gouv.fr. Donc en fait, c'est une plateforme d'analyse et de recoupement de signalements. Donc les signalements sont faits par des internautes, que ce soit anonymes ou non, en fait, qui nous signalent des choses et ces signalements sont traités pour la plupart, ils sont tous traités, mais après ils sont tous analysés. Ensuite, ils sont traités pour la plupart par des gendarmes ou des policiers qui sont formés, donc que ce soit au sein de la police judiciaire à Nanterre donc au siège de, la, de l'office central, ou alors dans les commissariats ou brigades de gendarmerie compétentes. Donc voilà, après, je voulais juste en parler. Au niveau national, on est là-dessus.
C'est vraiment un site à connaître, parce que n'importe qui peut s'y connecter de jour comme de nuit et signaler des faits, même s'il n'est pas trop sûr de lui, s'il pense avoir vu quelque chose, il ne sait pas si c'est une infraction ou pas, s'il peut avoir une nuisance, donc le signalement est fait. Derrière, il est analysé par soit des personnels INTEC, si c'est un gendarme qui est du traitement, soit des personnels ICC pour la police. Et il y a vraiment une vérification et des investigations qui sont faites en amont. Si ça doit déboucher sur une enquête judiciaire ou quelque chose, le service après envoie donc à la juridiction compétente le signalement pour qu'il y ait une enquête, qu'il y ait des interpellations, qui est les recueils de témoignages et compagnie. C'est vraiment quelque chose qui est super et que c'est un site qu'on doit avoir dans ses favoris.
Quel conseil donneriez-vous à des particuliers qui souhaitent se protéger face à ces délits numériques ?
Et des particuliers qui souhaitent se protéger, déjà s'il y en a à présent sur le site, c'est de se rendre à l'atelier de l'atelier numérique. Donc on va vous expliquer tout ça sur place. Sinon, pour les autres, et ben, c'est de se renseigner sur des sites compétents, sur des sites sécurisés, parce qu'il y a tout et n'importe quoi sur Internet, hein, et ou alors de se rapprocher des fois sur des professionnels du numérique, comme il en existe, et je sais qu'il y a une association aussi ici qui s'appelle les Promeneurs du Net, si je dis pas de bêtises. Je veux pas me tromper dans les Promeneurs du Net, qui peuvent aussi vous orienter sur les quelques sécurités en numérique.
Une des choses que je voudrais rajouter, c'est que pour être tranquille sur Internet et pour surfer de manière tranquille, il faut être curieux avant tout. Il ne faut pas hésiter, en fait, à, quand on a un doute sur quelque chose, à faire ses propres recherches sur Internet, à croiser les sources et compagnie. Quand on a un doute sur une, par exemple, sur une petite annonce, on n'est pas sûr si c'est quelque chose de valable ou pas, si ça peut être une escroquerie, il ne faut pas hésiter à passer le nom de la personne qui vend l'objet ou son adresse mail sur Internet. Les sites qui référencent les arnaques, par exemple, aujourd'hui, sont très réactifs. Et ça permet, aller à 99% du temps, de vraiment d'identifier la problématique ou non.
Dans ce monde du numérique qui évolue très vite, comment évoluent les délits ? Ont-ils augmenté ces dernières années ? Et y a-t-il de nouveaux types d'infractions ?
Alors, moi, je peux répondre là-dessus. Il n'y a pas spécialement de nouveaux types d'infractions, ou très très peu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le champ infractionnel est le même par rapport à avant le numérique, si on devait parler, utiliser cette expression-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les technologies numériques ont facilité, en fait, énormément d'infractions, comme les escroqueries, comme le harcèlement, comme plein de choses qui sont liées à ça. Il y a eu, au passage, quelques nouvelles infractions qui ont été créées, forcément, qui n'existaient pas du temps où les réseaux et les échanges étaient pas simplifiés. Mais dans la grosse majorité, on n'a pas créé de nouvelles infractions, on a juste créé de nouvelles manières de les commettre. C'est je sais pas si
mais c'est ça.
Et du coup aujourd'hui nous on va dire que le pourcentage des on relève pas une hausse des pourcentages d'une année sur l'autre, c'est à peu près constant quand on fait nos bilans chaque fin d'année, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément une grosse évolution d'une année sur l'autre. On a toujours les mêmes infractions et qui sont commises d'une année sur l'autre. Il n'y a pas de grosses variations. Enfin, moi, j'ai pas constaté.
Non, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il est difficile de quantifier les actes délictuels ou même criminels, parce que bon, Internet, c'est très vague et puis il n'y a pas de frontières. Donc, c'est difficile de quantifier. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'aussi, pour en revenir sur la plateforme Pharos, donc qui a été ouverte en fait en 2006. Et on voit une évolution, par exemple, au niveau des signalements. En 2006, il n'y a pas trop de publicité, c'est le début. On était aux alentours de 5200 signalements à l'année. Aujourd'hui, pour les chiffres de 2017, on est à 153 000 signalements à l'année. Donc ça, et pour l'escroquerie, donc là on parle de l'escroquerie, c'est à peu près une bonne moitié, donc entre 49 et 51% de signalements pour des escroqueries. Donc on voit une nette hausse concernant ces infractions délictuelles ou autres, mais c'est quand même difficile à quantifier. Donc voilà, il y a plus de signalements, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'infractions, mais il y a plus de signalements en tout cas.
Voilà. Et en partant de 2006. Donc 2006
et en partant de 2006,
voilà,
bien sûr.
C'est quand même très
exactement.
Très loin.
Est-ce que les lois sont adaptées aujourd'hui à la cybercriminalité ?
Alors, pour les lois, Mais la justice, c'est comme la police, hein, ça évolue avec le temps. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des magistrats qui sont spécialisés dans le cyber. Ils sont très peu. D'ailleurs, je crois qu'en Lozère, on n'y est pas encore. Mais déjà, rien qu'à Nanterre, c'était, je peux vous en parler, c'était assez compliqué. Il y a deux référents pour le cyber, et à Paris, il doit en avoir quelques-uns aussi. Mais c'est encore assez nouveau, donc ça prend de l'ampleur. Mais je pense qu'on travaille tous pour.
Oui, c'est ça. La grosse difficulté dans le domaine, c'est que, en fait, il n'y a pas de frontières, comme tu disais tout à l'heure, sur Internet. Et souvent, nous, quand on démarre une enquête, par exemple ici en Lozère, on va rapidement arriver à identifier des auteurs qui peuvent se trouver à l'étranger. Donc c'est là que les choses se complexifient, c'est qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus le droit français qui va s'appliquer, mais le droit du pays en question, des règles internationales et compagnie. Donc chaque année, vraiment, nos législateurs travaillent durement pour essayer de mettre en commun un certain nombre de lois pour permettre un peu de faciliter les choses. Mais c'est vrai que c'est une vraie difficulté de devoir travailler finalement de dans le monde entier. Voilà, c'est ça.
Est-ce que ça vous arrive de travailler ensemble ?
Alors, étant donné que la gendarmerie nationale et la police nationale font partie du même ministère depuis quelques temps, on travaille ensemble. Donc, comme pour parodier une certaine expression, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Donc, on travaille ensemble. Police, gendarmerie, c'est la même maison maintenant. Donc ouais, on est. Et puis là en Lozère, concrètement, on s'est rencontrés dès mon arrivée pour établir des projets et puis justement donner de l'aide à Mathieu parce qu'il est tout seul ou ils sont pas beaucoup pour gérer l'évolution des délinquances numériques. Donc voilà, bien sûr, l'avenir, on sera amené à travailler, même déjà au quotidien, on est amené à travailler ensemble.
C'est vraiment un département particulier, on a vraiment aucune difficulté à travailler ensemble. Police, gendarmerie, ça pose pas aucun problème.
Donc, quels conseils donnez-vous aux jeunes, notamment dans la gestion des réseaux sociaux ?
Dans la gestion des réseaux sociaux, effectivement, c'est d'actualité. De se protéger, comme on en parle à l'atelier numérique, justement, c'est de faire attention à la protection au Wi-Fi, par exemple, au Wi-Fi, je prends l'exemple du Wi-Fi que tout le monde prend ici, c'est le Wi-Fi du McDo. Faut faire attention parce qu'il peut être, non sécurisé et puis attaqué par une personne qui ne veut pas que du bien. Donc voilà, comme il dit, faut être curieux, faut se renseigner. C'est donné à tout le monde aujourd'hui. Internet, c'est accessible. On peut avoir des informations rapides et précises donc très rapidement. Faut vraiment savoir que Internet, c'est un superbe outil. Les réseaux sociaux aussi, mais c'est en même temps un superbe danger. Par exemple, si vous mettez, vous voyez, tout le monde met des photographies de soi-même, que ce soit sur Facebook, Twitter, Insta, Snapchat, tout ce que vous voulez. Dans 30 ans, ça ressortira. Et si, on a tous été jeunes, hein, mais si après, dans 30 ans, vous êtes amené à occuper des fonctions dans la politique, en tant que je sais pas, joueur de, enfin, en tant que sportif de haut niveau, personnalité, il y a des choses qui peuvent ressortir et il faut faire attention. Et c'est maintenant qu'on prévient, comme quoi, à partir du moment où vous partagez une photo ou un écrit ou quelque chose sur un réseau social ou autre, sur Internet, il vous appartient plus. Parce que vous avez signé, vous avez coché la petite croix disant que ça vous appartient plus. Donc ça, le conseil le plus important, je pense, c'est ça, c'est faites attention à ce que vous mettez sur les réseaux.
Tout à fait.
Ces réseaux sociaux, ils servent aussi à divers harcèlements. C'est le cyberharcèlement. Si nous sommes cyberharcelés, qu'est-ce qu'on doit faire ?
Alors je pense que la première des choses, vraiment, c'est de pas rester seul, que ce soit face à un harcèlement ou à un cyberharcèlement. La difficulté, c'est de pouvoir en parler, parce que souvent c'est associé à un sentiment de honte aussi, hein. C'est genre là, on se dit, j'ai pas été à la hauteur, c'est pour ça que je me retrouve dans cette situation là, j'ai pas fait les choses comme il fallait au moment où il les fallait. Donc l'idée, c'est vraiment de, si on peut, d'en parler. Alors ça peut être pas forcément je dirais aux personnes institutionnelles, pas forcément aux profs, pas forcément aux parents, à la sœur. Il faut essayer de trouver vraiment l'interlocuteur avec lequel on est le plus à l'aise. Alors ça peut être effectivement l'infirmière scolaire, par exemple, si on est dans ce, ça peut être en poussant la porte d'une gendarmerie ou d'un commissariat. Il faut pas hésiter à prendre conseil. Moi, ce que je rajouterais aussi, c'est qu'il y a une vraie responsabilité également auprès de l'entourage. Les gens qui sont dans le cercle vicieux du harcèlement ou du cyberharcèlement, souvent ils en perdent tellement leurs moyens qu'ils réfléchissent pas à la situation comme ils pourraient y réfléchir s'ils n'étaient pas concernés. Donc il y a un rôle très important à jouer auprès des gens qui sont autour. Si quelqu'un pense que quelqu'un d'autre peut être dans une situation de cyberharcèlement ou de harcèlement, il est vraiment important d'aller en parler, de le signaler, toujours pareil, pour essayer d'identifier le problème, de casser ce cercle vicieux et d'aider la personne. Le harcèlement et les quelques cas de cyberharcèlement qu'on a pu avoir en Lozère ces dernières années ont à chaque fois eu des conséquences qui étaient vraiment graves. Donc il faut intervenir le plus tôt possible et il ne faut pas rester dans son coin en disant bon ben je ferme les yeux, c'est rien, c'est de la rigolade, on va passer à autre chose. Il faut savoir dire non, il faut savoir identifier le problème et il faut tendre la main.
Et à qui doit-on le signaler justement ?
Alors comme je vous ai dit, ça peut être soit directement sur Pharos, donc sur la plateforme internet signalement.gouv.fr, si vraiment vous voulez vous garantir un maximum d'anonymat, ce genre de choses. Donc là on a un signalement qui part sur internet, qui va être traité par des policiers ou des gendarmes. Plus localement, ça peut être à quelqu'un de l'école, par exemple si c'est en milieu scolaire, puisqu'ils ont aussi obligation derrière de signaler les faits en amont, ou soit, comme je vous dis, de pousser la porte du commissariat ou de la gendarmerie. C'est pas parce que vous allez venir nous voir pour parler d'un problème et pour obtenir conseil que automatiquement derrière on va appeler les parents, on va faire des choses. L'idée, ça va être d'abord d'identifier le problème et d'aider la personne. On est là avant tout pour ça. Si la situation nécessite de déclencher un certain nombre de choses, ça se fera, mais toujours dans l'intérêt de la personne qui est dans cette situation difficile.
Et sur internet-signalement.gouv.fr, j'en reviens. Mais c'est important de dire que on peut signaler des choses anonymement de cyberharcèlement. On peut le signaler anonymement et il y aura toujours quelqu'un à l'écoute. Voilà, ça je voulais.
Et les cybercriminels, qu'est-ce qu'ils risquent de faire de la cybercriminalité en soi ?
Alors, ils risquent beaucoup de choses, mais comme Mathieu l'a dit tout à l'heure... une grande partie sont pas forcément sur le territoire français. Et parce que, comme on dit, Internet n'a pas de frontières. Donc c'est. Et avec des moyens comme les VPN, tout ça, souvent la plupart pour des cas concrets sont pas en France. Donc soit sont dans des pays Afrique ou des pays d'Europe de l'Est. Et justement à partir de là, c'est très compliqué. Il faut ouvrir. Il faut qu'il y ait une relation entre les deux pays, il faut qu'il y ait un commun entre les deux justices, et des fois c'est pas forcément le lien est un peu compliqué à mettre en place.
Et même des fois d'un pays sur l'autre on peut avoir tout simplement des infractions qui vont exister chez nous et qui n'existent pas dans le pays d'origine. Très simplement, quelque chose qui nous arrive régulièrement avec la plateforme Facebook, c'est que, par exemple, quelqu'un qui va en France donner son opinion, une opinion politique un peu trash ou quelque chose sur Facebook, donc c'est quelque chose qui est rigoureusement interdit. Pour autant, aux États-Unis, c'est la liberté d'expression. N'importe qui a le droit de dire ce qu'il pense. Du coup, quelque chose qui va être puni en France, comme un discours qui va inciter à la haine ou ce genre de choses, peut ne pas être puni aux États-Unis. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça que chaque année on rétablit un certain nombre de choses, un certain nombre d'accords juridiques internationaux pour pouvoir travailler en ce sens. Mais c'est quand même un domaine qui est très très compliqué.
Et c'est vrai que je voulais juste notifier que quand on fait des demandes à Twitter ou Facebook, pour en revenir, excusez Mathieu, la liberté d'expression, eh ben, des fois on a une réponse défavorable de la part de Twitter et Facebook qui ne nous donnent pas les informations demandées parce que dans leur pays et parce que l'IP est aux États-Unis, c'est pas interdit. Donc pour nous l'affaire, la procédure elle est quasiment close.
D'accord. Est-ce que quelqu'un dans le public souhaite poser une question? Non. Donc, écoutez, merci beaucoup pour votre intervention.
Merci à vous.
Merci à vous.
On retrouve la suite du plateau à 14h et bonne journée à vous.
Bonne journée.
Au revoir.